Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Ronan Kerdraon, il est président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, également président de l'association des maires des Côtes d'Armor, et il est maire lui-même, maire de Plérin, et il est en direct avec nous ce matin. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
Alors Ronan Kerdraon, on va parler des maires bien entendu, et puis plus largement des élus, les élus qui sont un petit peu en première ligne, il faut bien le dire aujourd'hui pour bien des choses, les élus qui connaissent beaucoup de difficultés sur le terrain, et on pense en particulier aux maires, parfois même des petites communes, mais aussi des plus grandes agglomérations.
Oui, tout à fait. Alors, il y a les maires, il y a les élus. Je voudrais aussi associer les personnels, puisque les agents d'accueil, notamment dans les collectivités, sont en frontal avec l'usager. Et on observe, depuis notamment la période Covid, qu'il y a un changement de comportement, même une aggravation de certains comportements, notamment des coups de fil intempestifs, des gens qui débarquent en mairie pour, quand ils ne sont pas contents, pour agresser parfois nos agents, voire les élus qui passent. Et je crois que tous les élus locaux qui sont aujourd'hui sur le terrain sont confrontés ou peuvent être confrontés à cette situation.
On est passé de l'agression verbale à l'agression physique aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Malheureusement, on constate de plus en plus, quel que soit le territoire en France d'ailleurs, des agressions physiques. On s'attaque au domicile des élus, mais on s'attaque aussi à leur sécurité, puisque notre collègue Duplou-Grescon, qui a été, on peut le dire, c'est une forme de tentative de meurtre quand on sabote les freins de quelqu'un. Là, on est passé sur un autre monde. Autant, il y a encore quelques années, on pouvait vilipender son maire, c'était de bonne aloi, comme dirait l'autre. Mais aujourd'hui, on a franchi un cap qui est dangereux, un cap qui peut démotiver et désabuser certains élus. On est confronté aujourd'hui à une situation qui est gravissime.
Alors, ces agressions, alors on va pas pouvoir faire évidemment une analyse sociologique ce matin, mais ce sont des agressions sur l'action du maire ou de l'élu en question, ou plutôt des agressions politiques, parce qu'on entend beaucoup cette petite musique de ces agressions politiques. Il n'est pas du même bord, je vais l'agresser.
Alors, je constate plutôt que c'est, quelle que soit d'ailleurs la nuance politique ou l'étiquette politique d'un élu, c'est souvent, surtout autour de thématiques ou de projets spécifiques dans les communes. On le voit régulièrement, tel projet ne plaît pas, on monte un immeuble, on a un projet de cabinet médical ou autre. Aujourd'hui, on constate que le contribuable électeur citoyen qui se sent quelque part lésé, vient manifester sa colère et déverser sa colère sur le maire en général ou sur l'adjoint ou l'élu ou l'agent de mairie. Et ça, on le constate de plus en plus. Et je crois que tout le monde est en train de prendre conscience de cette situation, puisque on a aussi la chance, nous, au niveau de l'AMF, de travailler avec le procureur de la République sur ce dossier-là et avec l'ensemble des services judiciaires et le préfet, bien évidemment. Il y a une vraie prise de conscience, mais il faudra inévitablement aussi peut-être revoir l'arsenal législatif autour notamment de tous les réseaux sociaux.
Alors justement, les réseaux sociaux qui appellent parfois à la colère, voire plus, on a vu des cas emblématiques. Il y a eu Calac ici avec ce projet d'accueil, d'un centre d'accueil pour des familles de réfugiés qui ne s'est pas fait, qui a créé une certaine forme de chaos. Et on a vu ces invectives, ces menaces aujourd'hui. Est-ce que ça démotive, vous parliez tout à l'heure, Ronan Kerdraon, de démotivation des élus. Est-ce que justement, certains maires sont tentés de jeter l'éponge ou encore de se dire non, moi j'y vais pas parce que j'ai pas envie de subir ça.
Alors effectivement, c'est un sentiment qui aujourd'hui est prégnant chez les élus locaux. Je ne sais pas si ça va être un élément qui va empêcher certains de se représenter ou de ne pas se présenter. En tout cas, l'inquiétude des élus concerne également leurs propres familles, puisque ce sont aussi les familles qui sont très souvent menacées et qui n'ont rien à voir avec la problématique de l'élu local. Donc oui, on est inquiet par ça, et parfois on est même impuissant par rapport à cette situation, parce que la mèche ou l'étincelle peut être de toute nature aussi bien d'un petit sentiment d'injustice parfois que quelqu'un peut avoir, de colère que quelqu'un peut avoir. Et aujourd'hui, cette colère s'exprime de manière violente, sans que la personne parfois ait vraiment conscience qu'il est en train de transgresser la loi, et surtout de franchir un cap dans une société où aujourd'hui l'individualisme, voire le repli sur soi, depuis, je disais ça tout à l'heure, depuis la période Covid, est un phénomène que nous constatons. Je me rappelle, pendant la période Covid, il ne se passait pas une semaine sans que je ne reçoive pas une lettre anonyme de quelqu'un qui dénonçait ses voisins.
Voilà, j'allais dire autre époque, autre mœurs, mais ça interroge quand même sur justement cette société aujourd'hui qui a tendance à être plus violente et société qui se tend, hein, pour le dire un peu poliment. Et il y a aussi, à une autre échelle, peut-être moins violente, quoique, les problématiques que rencontrent les élus de terrain. Alors, problématiques fiscales, problématiques territoriales. Je vois sourire Ronan Cardaon. Ces problématiques que tout un chacun ne voit pas, mais que les maires ou les élus, en règle générale, sont obligés de gérer au quotidien. Ce n'est pas toujours facile dans les petites communes.
Oui, tout à fait, dans les petites comme dans les grandes, d'ailleurs, parce que le problème de fiscalité... est aujourd'hui une question que l'administré, le contribuable, ne perçoit pas nettement. Aujourd'hui, quand une commune vous dit, quand un maire annonce en conseil municipal qu'il n'augmente pas les impôts et que, de l'autre côté, le contribuable voit sa fiche d'impôt qui augmente, c'est tout simplement parce que la loi de finances de l'année en cours fait que les taux augmentent. Mmh. Et donc, il y a effectivement une perte parfois de crédit de l'élu quand il annonce ça. Donc il faut aussi faire un effort pédagogique. Après, on peut prendre d'autres fiscalités. Il y a une fiscalité qui aujourd'hui est de plus en plus prégnante dans nos collectivités, c'est la fiscalité déchets. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, entre la collecte, le traitement, le recyclage, le coût va augmenter. Et là aussi, ce sont des coûts qui augmentent à partir des différentes lois de finances. C'est pas forcément les collectivités qui augmentent. Mais il y a un moment donné, effectivement, il y a un coût de service et les gens ont l'impression, par exemple, de toujours mieux trier, plus trier et toujours payer plus cher.
On l'entend, ça. Nos auditeurs, très souvent, nous envoient des petits mots pour dire « mais on ne comprend pas, on trie de plus en plus, on paie de plus en plus ».
Et puis, en termes de fiscalité, les élus sont souvent, je pense notamment aux élus intercommunaux, qui bénéficiaient jusqu'à présent de ce qu'on appelle la CVAE, qui était payée par les entreprises. Cette CVAE a été annulée par le gouvernement.
C'est une forme de taxe professionnelle.
C'est ça. Et donc, cette fiscalité est déconnectée du territoire. Elle est remplacée par une part de TVA. Or, on met la TVA à toutes les sauces. Et quand elle est dynamique, c'est bien. Quand elle ne l'est pas, c'est un peu moins bien. Puis on déconnecte surtout la fiscalité d'un territoire, et ça c'est un peu dangereux à mon sens.
Alors on va parler des territoires tout à l'heure, hein. Vous avez un petit peu entrouvert Ronan Cardaon sur les agglomérations, les communautés d'agglo ou de communes, les fameux EPCI, hein, pour prendre un terme, même bien les acronymes en France, donc on va en parler tout à l'heure, mais je voulais vous entendre aussi sur la difficulté pour les maires des communes, ou peut-être d'ailleurs aussi pour les présidents d'agglo, de pouvoir avoir un petit peu d'argent qui rentre dans les caisses, parce que c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Il y a la fiscalité d'un côté, puis il y a l'État de l'autre. Et puis on a perdu, en tout cas vous avez perdu, des recettes fiscales, on pense à la taxe d'habitation.
Tout à fait, depuis plusieurs années maintenant, on a perdu cette recette-là. On a une recette qui compense, mais qui compense au niveau de l'année de suppression. On a aussi des transferts de charges de plus en plus importants qui pèsent sur nos collectivités. Je pense notamment à tout ce qui concerne, par exemple, les cartes d'identité. On est compensé pour partie, mais on n'est jamais compensé totalement. Donc, tout le temps, on se bat pour trouver soit des recettes nouvelles, soit, ce qu'on fait le plus souvent, des dépenses en moins. Et donc, ça nous oblige, ce qui n'est pas forcément négatif dans l'esprit, à être beaucoup plus rationnel, à optimiser à la fois nos budgets et à optimiser aussi les recherches de subventions. Mmh. Et là, mais tout ça, ça implique qu'on ait une ingénierie. Alors c'est vrai que les communautés d'agglo, les communes un peu importantes ont cette ingénierie. Les petites communes l'ont moins. Donc c'est tout l'intérêt, quand on a une intercommunalité, eh bien, de pouvoir faire bénéficier des compétences de l'intercommunalité, les petites communes qui sont sur notre territoire. Et là aussi, c'est un élément un peu nouveau aujourd'hui qui prend de plus en plus de place.
Alors, comment faire vivre ces communes? Et là, je m'adresse au président de Saint-Brieuc, Armor Agglomération, que vous êtes, Ronan Cadraon. Comment faire justement cohabiter toutes ces petites communes, alors qu'elles n'ont pas forcément les mêmes vues, qui ont des velléités de développement pour les unes, de prudence pour les autres? Il y a de grands arbitrages.
Moi j'ai la chance de présider une intercommunalité de 32 communes, un peu plus de 151 000 habitants, et on est, nous, sur une gouvernance qu'on appelle partagée, c'est-à-dire qu'il y a une majorité issue des municipales et des minorités issues également des municipales. Et donc, on travaille dans cet esprit, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui a déjà présidé à la construction de notre agglomération aujourd'hui. On s'inscrit dans cette histoire-là et dans cette tradition-là. Et je réunis quasiment tous les mois, et notamment demain soir, il y a une conférence des maires, j'en ai tous les mois la conférence des maires. Et dans cette conférence des maires, il y a les 32 maires, et un maire, une voix. Mmh. Et ça, c'est important, parce que c'est comme ça aussi qu'on donne crédit à la parole des élus locaux. Et c'est comme ça qu'on associe l'ensemble des maires aux décisions de l'intercommunalité. Je dis souvent, dans une intercommunalité, il y a 33 collectivités. Il y a l'agglo et puis il y a les 32 autres communes. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour, en tant qu'agglomération, pour être une supracommunalité. Mmh. On est là pour être un facilitateur. Moi, en tant que président de l'agglomération de Saint-Brieuc, je préside, j'anime, je suis le porte-parole. Mais je ne suis pas celui qui va imposer des choix ou des décisions. On est bien là, en porte-parole de l'ensemble des collectivités, de l'ensemble des 32 communes. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait avancer nos projets. C'est comme ça que, par exemple, on va arriver, on est parti sur le projet d'hydrogène, par exemple. C'est comme ça qu'on peut faire avancer un certain nombre de dossiers, l'usine de l'eau, enfin on pourrait comme ça les multiplier. Et ça donne aussi crédit aux uns et aux autres. Parce que la constitution, la vie d'une agglomération, c'est la vie des 32 communes, c'est pas la vie simplement de la commune de Plérin ou de la commune de Saint-Brieuc ou de Longueuil, enfin, etc. Donc on est vraiment dans une coopération intercommunale qui fait que, eh bien, on donne aussi crédit à notre action. Et en plus, on travaille avec des EPCI voisins, donc ce qui est très bien.
Voilà, il y a aussi un dialogue avec les autres intercommunalités,
tout à fait.
Un travail.
Depuis 2020, on a mis en place une structure qui rassemble les 8 présidentes et présidents de PCI, et on a pris ces habitudes-là de travailler ensemble, parce que quand quelqu'un porte un projet, on le porte ensemble. Mmh. Par exemple, je vais essayer d'illustrer par notre collègue de Guingamp-Paimpol Agglomération qui porte un projet de ligne ferroviaire entre Guingamp et Carré. Nous le soutenons.
Mmh. Alors justement, on aime bien parler politique dans la matinale, ça vous aura pas échappé, Ronan Cadraon. Alors j'imagine qu'il y a différentes sensibilités dans les 32 communes. On a l'impression quand même que sur le terrain, les sensibilités, quand on rencontre son maire, on s'occupe pas de savoir s'il est de droite ou de gauche, voilà, on rencontre le maire pour une problématique particulière. Est-ce que justement, il y a une forme de transparence à ce niveau-là, et on ne s'occupe pas de l'opinion politique, on s'occupe vraiment des projets?
Alors très clairement, moi il ne s'agit pas d'opposer les légitimités, que l'on soit maire d'une commune. Quelle que soit sa nuance politique, la légitimité existe dans la mesure où on a été élu. Et ça me semble quelque chose qu'il faut qu'on rappelle sans cesse, parce que qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou sans étiquette, on a cette légitimité-là. Et cette légitimité ne se résume pas à une étiquette politique. Ensuite, il y a la légitimité des collectivités, bien évidemment, qu'il ne faut pas opposer. Par exemple, il y a la légitimité de l'agglo, il y a la légitimité du département, il y a la légitimité de la région. Et là, chacun a ses projets, chacun avance sur des dossiers, mais toutes et tous sont légitimes.
Alors, il y a aussi l'administré, voilà, monsieur, madame, tout le monde, qui se dit, bon, voilà, est-ce que je dois aller m'adresser à l'agglo pour telle problématique, ou au département pour telle autre problématique, ou tout simplement au maire de ma commune pour une autre problématique? On a ce millefeuille administratif dont on parle très souvent, c'est un petit peu le monstre du Loch Ness ou le serpent de mer, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a une demande de la part des élus, des maires en particulier, pour essayer de simplifier les choses, que les administrés s'y retrouvent un peu?
Alors c'est vrai que l'administré, sa porte d'entrée, c'est la porte de la mairie. Systématiquement, quel que soit le problème. Et on le voit d'ailleurs à travers les espaces France Service qui ont été mis en place. Au départ, moi, j'y étais pas en tant que maire de Plérin, j'étais pas tellement favorable. Et puis, en fin de compte, on l'a mis en place. En y adossant également des services de l'agglomération. Et on constate que l'administré vient dans ces espaces pour avoir les premières informations de base, ce qui est important. Après, le millefeuille administratif, c'est l'arlésienne, je dirais. En tout cas, la réforme, c'est l'arlésienne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde demande une clarification. Mais aussi, une clarification en termes de fiscalité. C'est-à-dire que je trouve pas normal que la région n'ait pas un budget à la hauteur de ses ambitions. Et moi, je salue le président Loïc Chesnais-Girard quand il met en place un certain nombre de dossiers. Je crois qu'ils sont en session ce matin. Mais avec un budget qui n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Donc il faudrait peut-être, en tout cas c'est mon avis personnel, accorder plus de pouvoir, par exemple, aux régions, et surtout un pouvoir fiscal plus important. Et on voit bien que les dotations des collectivités diminuent également. Hein. Si on prend le département, c'est les droits de mutation qui ont sérieusement baissé.
Avec toujours plus de charges, on voit, si on prend le département, la charge sociale qui est importante. Avec une époque compliquée, on a beaucoup de demandes d'aide sociale à tout point de vue, et c'est pas toujours évident, là aussi, d'arbitrer finalement, ne serait-ce que d'un point de vue financier.
Très clairement, les compétences sociales aujourd'hui, on le voit bien à travers les personnes qui fréquentent nos CCAS, on se rend compte qu'il y a une forme de paupérisation qui s'accentue, mais on voit aussi qu'il y a un fossé qui se creuse de plus en plus. Et cette paupérisation qui avance inclut aujourd'hui un certain nombre de personnes qui n'étaient pas concernées à l'époque. Il y a une grande difficulté aujourd'hui, c'est l'accès au logement, la capacité à avoir un toit. Et on voit bien que là aussi, il faudra qu'on nous donne des outils sur la maîtrise du foncier. La loi ZAN qui aujourd'hui fait qu'on doit aller vers une consommation des terres soit sérieusement réduite, mais on ne nous donne pas l'outil nécessaire pour éviter que les prix du foncier augmentent, parce que tout ce qui est rare est cher. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a vraiment une hausse du coût du foncier ou de l'habitat.
Alors, on parlait de la région. On a parlé aussi beaucoup d'autonomie. Vous faisiez référence à Loïc Chesnais-Girard, le président de la région Bretagne, qui avait saisi au vol, il y a quelques mois, les paroles du président de la République, Emmanuel Macron, qui était en visite en Corse et qui avait parlé d'autonomie. Et Loïc Chesnais-Girard a dit « Chiche, pourquoi pas, la Bretagne aussi est très demandeuse ». Est-ce que, justement, une plus grande autonomie des régions qui peut, si vous me permettez le terme, allez, je vais l'oser, qui peut ruisseler sur les autres administrations, les autres, le fameux millefeuille administratif. Est-ce que ça peut être une bonne chose, justement, cette autonomie pour des EPCI, pour des mairies même ?
Alors, je ne sais pas ce qu'on va mettre derrière l'autonomie, mais en tout cas, qu'on lui donne plus de responsabilités et de pouvoir aux régions, ça me semble important. Le positionnement du président de la région aujourd'hui est une position qui est à la fois de bon sens, mais qui est surtout en phase avec le temps et surtout avec les souhaits qu'on peut avoir de rationalisation et surtout de clarification, ne serait-ce que pour les lecteurs, mais aussi, bien évidemment, pour les acteurs. Hein, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, par exemple, à travers la loi NOTRe, par exemple, on a simplifié les relations économiques. Le binôme, c'est la région et l'intercommunalité. Ça fonctionne bien. C'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas forcément dire autonomie. Je pense qu'il faut clarifier les compétences, dire qui fait quoi, comment on le fait, comment on le finance.
Avec toujours aussi une question, on entend beaucoup de voix aujourd'hui, en Bretagne et ailleurs aussi, il faut bien le dire, on ne va pas être trop chauvin, qui disent voilà, il faudrait introduire plus de démocratie, il faudrait que finalement les administrés soient plus souvent consultés. Alors je ne sais pas si on peut parler de référendum ou de votation, ça se fait, hein, mais est-ce que c'est quelque chose, c'est un outil qui peut être mis au service justement de la collectivité ?
Alors, je suis toujours très prudent quand je parle de démocratie participative. Parce que la première impression, le constat que je fais depuis quelques années, c'est que lorsqu'on devient élu, comme par hasard, on perdrait sa qualité de citoyen. On voit souvent des groupes citoyens qui se montent, et comme si les élus, les maires, ou simples conseils municipaux, une fois qu'ils devenaient élus, ils n'étaient plus citoyens. Si, il est toujours citoyen, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Alors, oui, la consultation est nécessaire. La concertation est nécessaire, mais il ne faut jamais leurrer notre interlocuteur sur la manière dont on va décider. C'est-à-dire qu'il faut vraiment concerter, débattre, échanger. Il faut se donner un temps pour le faire. Et à la fin, Il faut toujours savoir que ce sont les élus, bien évidemment, qui vont décider. Il ne faut donc pas tromper les gens sur le résultat. Mais, effectivement, essayer de co-décider, essayer de prendre aussi les bons arguments et les éléments qui permettent d'enrichir un projet. Mais il y a un temps pour le faire. Je constate depuis... J'étais élu la première fois en 2008. Par exemple, quand on fait un programme de logements sociaux, par exemple. Avant, il fallait 4 ans. Entre le moment où on imaginait le projet, on posait la première pierre et on livrait le programme. Aujourd'hui, c'est 7 ans. Donc, il y a un problème. Quand on sait qu'il y a un problème de logement en France, quand on sait qu'on a un problème de logement sur notre territoire, aujourd'hui, on est confronté aussi à des lourdeurs, à des lourdeurs dans le temps administratif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le temps administratif, le temps de l'élu et le temps du citoyen sont des temps tout à fait différents.
Et souvent, le citoyen ne comprend pas justement ce temps très long. Est-ce que les élus arrivent, les élus de terrain, président de PCI ou maire, justement, ou président de conseil départemental, on pourrait aller jusque-là, arrivent à se faire entendre des plus hautes instances quand il y a une problématique à gérer? Est-ce qu'on arrive à se faire écouter, finalement?
Alors, je dirais que plus notre interlocuteur est proche, plus on se fait entendre. Plus on se fait écouter. Moi, je rencontre régulièrement M. le préfet des Côtes d'Armor et je dois dire que dans la relation qu'il a instituée, il y a une relation d'écoute, je l'ai dit d'ailleurs à mes voeux, il y a une vraie relation d'écoute. Il est là aussi pour faire remonter des problématiques et je pense qu'il le fait, il le fait bien. Alors après, on a des différences, on a des divergences sur un certain nombre de sujets, mais il joue ce rôle-là. Et ça, c'est important pour nous, parce que c'est notre interlocuteur principal. Après, on a d'autres interlocuteurs, la région, le département, les administrations diverses et variées. Mais ça permet d'avoir aussi, je pense, pour lui, une forme de droit d'alerte au niveau de l'État.
Un retour du terrain, en tout cas.
Tout à fait.
Alors, le terrain, les élus aiment bien y être. Et vous en êtes un petit peu l'exemple, Ronan Cadraon, parce que j'ai lu quelque part dans la presse, chez mes confrères, que vous étiez très impliqué, en particulier, pour soutenir le projet de rocade sud de Saint-Brieuc. Alors, je ne vais pas parler de serpent de mer, là, je vais être plus gentil. Mais en tout cas, ce projet de rocade dont on parle beaucoup, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer au point quand même d'être un peu quand même sur le terrain et dans la manifestation, si j'ose dire?
Oui, alors, comment dire? Aujourd'hui, l'agglomération briochine n'est pas maître d'ouvrage, il faut le savoir. Donc, ça ne dépend pas que de nous. Mais c'est un projet, effectivement, alors je ne sais pas si c'est un projet qui date d'un autre monde, mais c'est un projet, et on le verra demain, puisque j'organise une session plénière de notre communauté d'agglo sur ce sujet-là, parce que beaucoup des élus d'aujourd'hui n'étaient pas là au moment où ce projet a été acté. Donc c'est un projet qui, à l'époque, et le mandat que j'ai aujourd'hui, qui est très précis, c'est de défendre le tracé et l'achèvement et la finalisation de cet axe de contournement sud qui a été effectivement imaginé à partir d'un certain nombre d'éléments concrets, permettre l'installation d'activités économiques, permettre également la traversée en sécurité d'un certain nombre de bourgs ou de communes. Aujourd'hui, on constate que oui, il y a une partie qui a été réalisée, mais l'autre partie n'a pas été réalisée. Et aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que si on ne finalise pas cet axe, ça serait une symphonie inachevée. Mais je ne connais qu'une seule symphonie inachevée qui a eu du succès. Et là, je crains qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Donc, le but aujourd'hui, c'est de savoir comment on finit cet axe. Et je n'oppose pas la légitimité, bien évidemment, du département, ce qui est dans son rôle de proposer des choses. Mais il y a aussi la légitimité de l'agglomération, mais aussi la légitimité des communes concernées. Parce que ce sont un certain nombre de communes qui sont concernées, c'est aussi le Sud-Gouello qui est concerné, ce sont aussi les EPCI voisins qui sont concernés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur la RN12, vous avez de plus en plus d'accidentologie. Et le risque, c'est qu'on ne s'en soucie pas forcément autant qu'on devrait s'en soucier. Donc il y a sans doute des solutions à trouver, il y a sans doute un peu d'imagination, de créativité à avoir, donc j'en débattrai demain avec mes collègues qui me donneront un mandat pour à nouveau aller voir le département, sachant que bien évidemment, on n'est pas maître d'ouvrage.
Alors voilà, on va suivre évidemment le dossier. Il nous reste trois petites minutes, hein, me faisait signe notre réalisateur qui est le maître des horloges. J'aurais voulu parler de politique, quoi qu'on en parle hein, depuis tout à l'heure, mais de politique un peu plus politicienne. Aujourd'hui, on voit une situation, on ne sait pas si éloigné de cela que, par rapport aux élus de terrain. On voit une situation aujourd'hui qui se tend, une société qui se fracture avec de multiples raisons hein, à cela, c'est-à-dire l'inflation, c'est-à-dire une forme de mal-vivre aujourd'hui, et on voit la montée des extrêmes, et je vous sais assez préoccupé par le sujet. Justement, est-ce qu'aujourd'hui vous craignez qu'on bascule dans une autre société dans les mois, dans les années à venir ?
Alors je ne sais pas si je crains qu'on bascule, je pense qu'on a déjà basculé. Mmh. Mais quand on voit aujourd'hui que pour tout est... Et je le vois, et on le voit de plus en plus, depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis la période Covid. Entre le complotisme, les lettres anonymes, les ceci, les cela, on voit qu'il y a une radicalisation qui se fait. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mmh. Donc c'est assez inquiétant. Et quand on voit la montée des extrêmes, la banalisation de certains actes, de certains propos, d'attitudes, et puis... On voit aussi le langage policé que peuvent avoir des extrêmes, qui deviennent, où on dit, tiens, c'est un langage de bon sens, parfois. C'est ça qui est dangereux, parce que l'électeur moyen, le citoyen moyen, puis il y a aussi, et là on est sur une radio, mais les chaînes de télévision d'information en continu, l'information c'est bien.
On peut lâcher le mot, hein, CNews, hein,
par exemple. Oui, tout à fait.
Qui est un peu dans la tombe.
On peut parler de CNews, de BFM, enfin de toutes ces chaînes d'information en continu qui rabâchent au fil des heures, au fil des minutes, un certain nombre de choses. Et parfois même qui créent une forme d'anxiété sociale, qui contribuent, qui la construisent. Et là, il y a sans doute aussi quelque chose à faire, parce que pour certains, ce n'est que la seule source d'information. Aujourd'hui, la radio, la télé, le journal, c'est compliqué. Les gens il y a une forme de lassitude parfois par rapport à ces médias-là. Et on constate que chacun a aussi un rôle à jouer et chacun doit aussi se regarder dans la glace et prendre sa part de responsabilité pour éviter. Ça sera pas les politiques ne pourront pas résoudre. C'est tout le monde ensemble, c'est un collectif qui peut résoudre, tenter de résoudre en tout cas, ces difficultés de monter des extrêmes.
Alors, pas de question piège, hein, mais on faisait allusion à CNews. On sait que le Reporters sans frontières a saisi l'ARCOM qui a dit voilà, CNews respecte son cahier des charges. Reporters sans frontières a alors saisi le Conseil d'État qui a demandé à l'ARCOM de revoir un peu sa position. Est-ce qu'on ne met pas le doigt dans un engrenage en disant à un moment, on va fermer une chaîne de télévision?
Oui, je caricature un peu. Je pense qu'il y a sans doute d'autres moyens. Alors, je ne suis pas un spécialiste, loin de là, mais ma crainte, aujourd'hui, on est dans un pays où on a normalement la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, quand elle est bafouée, quand on l'utilise à mauvais escient, il y a une législation, il y a des condamnations, enfin, etc., etc. Si on rentre dans ce débat-là, on met en tout cas le pied dans une porte qui peut, pour d'autres raisons, s'ouvrir ailleurs. Et quand on voit aujourd'hui que... Et c'est assez marrant, d'ailleurs, enfin c'est marrant, c'est paradoxal, de voir que c'est au moment où Robert Badinter meurt, qu'on a ce genre de préoccupation. Il y a une connotation, une coïncidence là qui m'interpelle.
Et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter, Ronan Cadraon. En tout cas, le débat reste évidemment ouvert. Ronan Cadraon, président de Saint-Brieuc Armor Agglomération, président de l'association des maires des Côtes d'Armor. Et ils sont importants, les maires. Et on a aussi la preuve, puisque vous êtes maire de Plérin. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée.
Écoutez, bonne journée à vous et puis bonne Saint-Valentin aux uns et aux autres.
Voilà, on va transmettre à toute l'équipe.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.